Alors nous allons, ce soir, donc, nous allons poursuivre notre étude biblique. Nous avons démarré depuis déjà quelque temps sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et nous sommes rendus au chapitre 15, un long chapitre qui a 58 versets. Je vais essayer, dans le laps de temps que nous avons, de passer à travers. Le chapitre 15 vient avec le chapitre 12, vient après le chapitre 12 à 14, où vous vous rappelez, nous avons parlé des dons spirituels. Nous avons longuement parlé des dons spirituels, que les dons spirituels nous avaient été donnés pour servir à l'Église, pour le bien de tous. Et le chapitre 15, qu'on appelle souvent d'ailleurs le chapitre de la résurrection. Quand on parle du chapitre 15 de Corinthiens, on l'appelle souvent le chapitre de la résurrection, vient nous dire pourquoi nous devons faire ce bien. Vient nous dire la raison d'être de ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons? Je l'ai dit un peu au début, nous le faisons parce qu'il y a quelque chose que nous attendons, le retour qui viendra nous prendre. Donc, ça vient nous dire que nous ne le faisons pas en vain, nous ne le faisons pas pour rien. Nos actes que nous faisons doivent être inspirés, s'ils ne le sont pas. Ils devraient en tout cas être inspirés de l'idée que nous nous faisons sur la fin de l'homme. Où l'homme, sa vie finit ici-bas, ou alors il y a quelque chose dans l'au-delà. Alors s'il y a quelque chose dans l'au-delà, ça doit nous pousser dans notre comportement ici-bas à nous préparer justement en fonction de cette vie qui nous attend dans l'au-delà. Donc si la mort n'est pas la fin et qu'il y a une résurrection, qu'il y a une vie après la mort, ben ça va influencer fortement notre attitude et notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Le chapitre 15, vous comprenez donc que c'est un chapitre important. Il est vraiment au cœur de l'Évangile. C'est ce qui fait du christianisme une religion différente des autres religions. Parce que le cœur de l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est venu pour mourir afin de sauver l'humanité. Le cœur de l'Évangile, c'est cela. Christ mort pour sauver l'humanité. Et c'est cela donc que d'autres religions n'ont pas. Les autres dirigeants sont morts. On sait où ils ont été enterrés. Mais le nôtre, on sait qu'il avait été enterré à tel endroit. Et il le dit dans le texte, nous allons le voir. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et on va voir que beaucoup de personnes l'ont vu. Donc il n'est plus dans le tombeau. Il y a toute une différence par rapport aux autres religions. Et c'est ça la force du christianisme. Nous allons donc parcourir le chapitre 15 ici. Je ne vais pas tout lire, ça va nous retarder. Je vais y aller par bloc de versets. Nous lisons d'abord les quatre premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est là le noyau même de la foi chrétienne. Christ mort, enseveli et ressuscité. C'est le noyau de notre foi, c'est le noyau de notre croyance, c'est ce qui fait la force et c'est ce que Paul a reçu. C'est ce qu'il a enseigné. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Jésus. Quand il m'est apparu, je l'ai reçu des autres que j'ai vus qui m'avaient précédé, mais c'est ce que je vous ai enseigné. Et c'est ça pourquoi je pense et j'espère, dit-il, que vous persévérez par rapport à ce que je vous ai enseigné. Si vous persévérez par rapport à ça, gloire à Dieu. Amen. Sinon, à ce moment-là, votre foi est vaine. Si vous persévérez juste pour des bénédictions, si vous persévérez juste pour d'autres intérêts, votre foi est vaine. Notre foi doit être ancrée sur cette espérance que Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour un but. Il est mort pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Voici ce que je vous ai enseigné avant tout, que j'avais moi-même reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés. C'est le message central que Paul a donné aux Corinthiens. Allons lire les versets suivants, 5 à 7. Et il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. À l'époque, Paul écrivait, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ce que Paul veut montrer ici, c'est la réalité historique. Ce n'est pas juste que je vous ai enseigné des choses, mais il y a une réalité historique. Il y a des témoins oculaires qui ont vécu ces choses, qui l'ont vu, dont moi-même. il le dit. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Il y a eu des témoins oculaires, c'est une réalité historique, ce n'est pas des fables qu'on vous raconte, il y a des personnes. Si je lis le commentaire ici sur les apparitions du Christ, ça risque d'être long. Mais juste dire à qui il est apparu. À Jérusalem ou dans ses environs, il est apparu à Marie de Magdala, aux autres femmes, à Pierre, aux 10 disciples, aux 11, Thomas compris. Ils l'ont vu plutôt lors de son ascension. Il a vu des disciples sur le chemin d'Emmaüs, en Galilée. Il est apparu à 500 personnes. Il est apparu à Jacques, aux apôtres. Il est apparu à Paul en dernier sur la route de Damas. Une réalité historique qui fait la force de notre foi, ce sur quoi nous nous attachons. Il dit, il est apparu en tout dernier à moi comme à l'avorton. Comme à l'avorton. Car je suis le moindre, verset 9, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Il y a la réalité historique. Mais il y a aussi le fait que moi aussi, je l'ai vu. Moi qui vous écris, je l'ai vu. On ne m'a pas raconté. Je l'ai vu, il se considère comme l'avorton. Un avorton, c'est quelqu'un qui est né soit prématurément ou quelqu'un qui est né dans des conditions un peu difficiles. Mais oui, lui, il considère qu'il est né dans des conditions difficiles. Il est venu au Seigneur dans des conditions difficiles. C'était un persécuteur. C'est le sens. C'était un persécuteur et saisi en cours de route, il est tombé aveugle. C'est vraiment comme un avorton. Je suis le moindre parce que je suis le dernier venu. Je suis le dernier, évidemment, sauvé par pure grâce. Par pure grâce, je ne le méritais pas. J'ai mal agi, mais sauvé par pure grâce. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Oui, je pense qu'il a beaucoup travaillé. Regardez, la Bible est pleine de toute l'histoire sur des voyages missionnaires et tout ce qu'il nous a laissé comme épître. C'est vraiment la preuve qu'il nous a laissé un bagage important. Et Paul est tout le temps, comme vous le voyez, en train de défendre son apostolat. Parce qu'il a tout le temps été contesté, contesté. Et il n'arrête pas l'occasion pour pouvoir donc se défendre. Donc, les 11 premiers versets, comme nous venons de le voir, parlent et insistent sur l'importance centrale de la résurrection de Jésus-Christ dans la foi chrétienne. Il n'y a rien d'autre qui nous dirige. Il n'y a rien d'autre qui nous tient. Amen. Et l'espérance que nous avons, c'est parce que si Christ est ressuscité, c'est que nous aussi nous ressusciterons si nous sommes morts, ou alors nous monterons à sa rencontre si nous sommes vivants quand il reviendra. Amen, amen. Le deuxième bloc de versets nous parle véritablement de l'importance de la résurrection. Ça part du verset 12 jusqu'au verset 28. Je vais encore y aller par morceaux de bloc. Donc, Paul souligne là-dedans l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Le verset 12 à 13 dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il confirme qu'il y aura résurrection des morts. Il y aura résurrection, même si certains ne le croient pas, même si certains disent le contraire, même si certains ont de la difficulté à y croire, il y aura bel et bien résurrection des morts. Ceux qui doutent, ceux qui sont troublés à penser à ça, c'est tout simplement lié, nous l'avons beaucoup dit dans l'étudiant corinthien, à cette philosophie gréco-romaine à l'époque, pour laquelle le corps n'était rien, le corps n'était que matière, n'avait aucune valeur. On ne voit pas comment on va attacher une importance à quelque chose qui n'a pas de valeur pour dire que ça va ressusciter. Le corps n'a aucune valeur, il considérait comme le corps physique comme sans valeur, comme même la source de tout mal. On ne peut pas s'attacher à ça, dire que ce corps ici est tellement important, etc., qu'il va ressusciter un jour. Non. Pour eux, un corps ressuscité, c'est quelque chose qui relève du mythe. C'est un mythe, c'est peut-être une croyance spirituel, mais il n'en est en rien un concept qui soit relié à une réalité matérielle. Voici pourquoi les gens, dans ce contexte, avaient de la difficulté à croire en la résurrection des morts. Or, dit Paul ici, nier la résurrection des morts, c'est nier celle de Christ. Il est ressuscité, il y a eu des témoins, les gens l'ont vu, et lui-même l'a vu, il en parle. Donc il faut faire preuve d'ignorance de Dieu pour continuer à dire qu'il n'y aura pas de résurrection des morts. Or, les deux résurrections sont liées. Parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Les deux sont liés. Alors, le nier, c'est juste refuser, ne pas considérer Dieu comme étant capable de le réaliser. Amen. Versets 14 à 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, il revient là-dessus. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous comprenez ce que Paul relève là-dedans? C'est des conséquences qui ne peuvent qu'être désastreuses de ne pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Si lui est ressuscité, nous ressusciterons. Mais si lui n'est pas ressuscité, c'est grave. Votre foi est vaine. Nous prêchons en l'air. Nous prêchons en l'air. J'ai déjà apporté ici une image que j'ai trouvée dans un petit livre qui montre que la notion de résurrection de Christ c'est représentée comme une fleur. Une fleur dont le cœur, là, le cœur de la fleur, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et tout le reste vient se greffer dessus. Notre prédication, notre foi, toutes nos croyances viennent se greffer à partir de là. Donc, si vous enlevez le noyau central, tout le reste tombe. Tout le reste tombe. Donc, il y aurait des conséquences désastreuses si jamais Christ n'était pas ressuscité. Notre prédication est vaine. Votre foi est vaine, au verset 15. Au verset 16, nous sommes de faux témoins. Parce que nous sommes en train de témoigner des choses qui ne seraient pas vraies. Nous sommes des faux témoins. Nous sommes des menteurs. Si Christ n'est pas ressuscité, donc nous, vous n'êtes pas sauvés non plus. Vous n'êtes pas sauvés non plus. Donc, vous vivez encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est que les morts en Christ sont perdus à jamais. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes véritablement les plus malheureux de tous les hommes. Versets 20 à 28. Mais maintenant, autrement dit, mais comme Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Dieu est excepté, évidemment. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Ce qu'il veut dire, c'est que comme Christ est ressuscité, il y a une évidence qu'il y aura la résurrection des croyants. Il y aura la résurrection des croyants. Et Paul se concentre, dans ce chapitre, il se concentre principalement sur la résurrection des croyants, bien que nous savons qu'il y aura aussi la résurrection des non-croyants qui viendra plus tard, évidemment, celle des incrédules. Donc, comme Christ est ressuscité, il y aura aussi résurrection des croyants. Et ça se fera en plusieurs phases. C'est ce que Paul veut présenter là-dedans. Ça se fait en plusieurs phases. D'abord, il y a eu celle de Christ, la résurrection de Christ, qui a été la première épisode d'une grande moisson qui s'en vient, d'une grande moisson qui s'en vient pour la vie éternelle. Il est les prémices, il est le premier d'une grande moisson qui vient. Ensuite, il dit que de même que la mort est venue par un seul homme, Adam, le péché d'Adam a entraîné la mort, de même que la mort est venue par un seul homme, de même par un seul homme, Christ, tous seront ressuscités. Même chose, il dit, mais tous seront ressuscités, mais chacun sera ressuscité en son rang, en son temps, lors du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde en même temps, mais il y a un certain ordre qui va se faire. Ça se fait quasiment en deux actes. D'abord, il y aura les morts en Christ, ceux qui sont morts jusqu'au moment de l'enlèvement. Tous ceux qui sont morts en Christ vont monter à la rencontre des airs. Et ensuite, nous les vivants, Paul parle de nous les vivants, je l'ai déjà dit une fois ici parce que souvent, les gens de cette époque prêchaient comme si Christ revenait de leur vivant pendant qu'il serait encore en vie. Il dit, nous les vivants. Il parle comme si il sera là. Parce qu'il se disait, oui, il va venir pendant que je suis encore en vie. Donc, il y aura la première acte, donc les morts en Christ et nous, les vivants. Il va y avoir un temps entre les deux, amen, un temps entre les deux où la grande tribulation viendra. Je caricature un petit peu parce que je ne peux pas aller dans tous les détails. Il y aura la grande tribulation et ensuite, il y aura ceux qui croiront lors de la grande tribulation. Plus alors tous les saints de l'Ancien Testament, deuxième vague de... on peut les lire rapidement dans 1 Thessaloniciens 4, je les lisais tout à l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous avez la deuxième acte qui vient, on en parle dans Apocalypse 20, le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » Nous sommes dans la période de tribulation. Donc, c'est la période de tribulation. Tous ceux qui n'auront pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, pendant le millénium. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'était la première résurrection. Et donc, à la fin du millénium, ce sera le tour des non-croyants, ceux qui ne sont pas ressuscités justement à ce moment-là pour le jugement final. Le premier acte, quand Christ revient, il y a des gens qui montent à sa rencontre, et les morts en premier, en Christ, montent, les vivants montent, et la deuxième vague de tous ces gens qui, pendant la période de tribulation, c'est les deux groupes qui vont venir régner ici pendant 1000 ans sur terre. Et c'est à la fin de ces 1000 ans que les non-croyants ressusciteront évidemment pour le jugement final et c'est ensuite que viendra la fin, comme nous dit le verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Donc Jésus mettra tout ses ennemis sous ses pieds. Tout ce qui était hostile à Dieu va être mis à ce moment-là sous ses pieds. Les dominations, les puissances et tous seront réduits à l'impuissance à ce moment-là. Et Satan sera dépossédé de son arme fatale, la mort. Il sera dépossédé de la mort avant lui-même d'être précipité dans le lac de feu. Amen. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ, comme il dit, remettra le royaume, c'est-à-dire l'ensemble des croyants de tous les temps les remettra à Dieu. Extraordinaire, hein? L'image que j'ai, quand je lisais ça, je voyais l'image. L'ensemble, tous ceux qui ont été sauvés de tous les temps, il remet à Dieu, il dit, mission accomplie. Amen. Mission accomplie. J'ai mis sous mes pieds tous ceux qui s'opposaient à cela, et puis ils ont été précipités, mais voici maintenant le royaume, et lui-même se soumettra à son Père, et il règnera avec nous, avec son Père, dans la Trinité, évidemment, pour les siècles des siècles. Amen. Ça, c'est ce qui concerne la résurrection des croyants. Maintenant, nous allons voir à partir du verset 29, je vais aller jusqu'au verset 34, ça nous parle des conséquences, les conséquences de la négation, ou alors les autres aspects concernant la négation de la résurrection. Si on nie que la résurrection n'aura pas lieu, c'est quoi qui peut arriver, c'est quoi qui va arriver, les conséquences. S'il n'y a pas de résurrection, au verset 29, il dit ceci. Autrement, donc s'il n'y avait pas de résurrection, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est une notion qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Le baptême des morts, nulle part ailleurs, c'est une notion qui n'est pas claire, qui n'est pas facile. Même ceux qui commentent, il y a des gens qui ont fait des essais de commentaires là-dessus pour savoir c'est quoi le baptême des morts. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi alors les gens se font baptiser pour les morts? Pourquoi les gens se font baptiser pour les morts? En fait, il utilise ce thème étrange, Paul utilise ce thème étrange parce qu'il veut contrer, il veut leur montrer, mais vous ne croyez pas à la résurrection des morts, et vous vous faites baptiser pour ceux qui sont déjà morts. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé à l'époque, les gens croyaient que si quelqu'un n'avait pas été baptisé, et qu'il est mort sans avoir été baptisé, ben, il n'a pas de salut et il ne pourra jamais revenir à la vie. Donc, ça consistait en cela. L'explication la plus plausible, c'est celle-là. Donc, il y avait des incroyants et même des chrétiens peut-être peu instruits, qui sont peu au courant de la parole de Dieu et du message de Dieu, qui se faisaient baptiser en lieu et place de leurs proches qui étaient morts sans avoir été baptisés. Et ils croyaient que sans le baptême, donc, qu'il n'y aurait pas de résurrection, ou même s'ils ressuscitaient, ils seraient condamnés. C'est là qu'il leur dit, vous dites que vous ne croyez pas à la résurrection des morts, mais pourquoi vous faites baptiser pour les morts ? Et quelque part, vous vous contredites. Or, le baptême, nous savons que le baptême n'a aucun rôle, ne joue aucun rôle dans le salut. Aucun. Le baptême, c'est juste une confession publique de sa foi. Un témoignage public de sa foi. Je dis, j'ai cru en Jésus-Christ, etc. C'était un témoignage public de ma foi. Ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Pourtant, j'ai regardé, quand je faisais la préparation, qu'il y a encore aujourd'hui des sectes qui pratiquent ce genre de baptême des morts. Et des sectes parmi les plus connues, dont les Mormons. Les Mormons baptisent encore des gens par procuration. Il y a des gens qui passent leur temps à aller chercher des généalogies pour savoir qui de ma famille qui n'avait pas été baptisé. Ils allaient dans les églises pour demander les baptistères. Il y a quelques temps de ça, jusqu'au 4e siècle. Mais aujourd'hui encore, les Mormons le font. Baptême par procuration. Quelqu'un est mort sans avoir été baptisé, il se fait baptiser à la place. On parle aussi des néo-apostoliques. C'est une secte. Une secte néo-apostolique qui fait la même chose, fait baptiser des gens aujourd'hui par procuration, en tout cas. C'est des choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça n'a aucune importance pour nous. On le dit simplement parce que c'est dans un texte et puis on se pose des questions. C'est quoi le baptême des morts, pour les morts ? Oui, c'était une pratique qui se faisait dans le temps, c'était même qu'il y a des églises qui ont continué à le faire aujourd'hui, des églises que nous on considère comme étant des sectes. Versets 30 et 31. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues des humains que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Je vais m'arrêter au verset 30 et 31. Donc, Paul veut montrer pourquoi il accepte que sa vie soit constamment en danger. Et on sait qu'il était constamment menacé. Des voyages périlleux qu'il faisait, des menacés. On le faisait descendre par des cordes pour le faire fuir. Parce que on voulait. Pourquoi j'accepte que ma vie soit constamment en danger ? C'est parce que je crois qu'à une vie, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire ici parce que tout ne va pas s'arrêter ici-bas. Amen. Il y a une récompense même, pas juste une vie, mais une récompense qui m'attend. Il y a une joie éternelle qui est en contrepartie de toutes les souffrances que j'endure. Pourquoi, dit-il ? Pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Oui, parce qu'il y a une récompense. Pourquoi nous acceptons de souffrir pour que l'évangile avance ? Parce qu'il y a une suite à cela, une suite en contrepartie de nos souffrances. Quand il parle des bêtes à Éphèse, c'est peut-être qu'il a vécu aussi des expériences. J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Ça peut être des bêtes réellement, mais ça peut aussi être tous ceux qui s'opposaient à lui. Il y a par exemple le Démétrius, l'orfèvre, là, Démétrius qui soulevait des gens contre lui parce qu'il leur coupait les vivres. On peut le lire dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquer des temples de Diane en argent et procurer à ses ouvriers un gain considérable. C'était leur dieu de l'époque. Et il les rassembla avec ceux du métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais aussi dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Voici les genres de choses difficiles que Paul a vécues pendant tout ce temps, et c'est ce qu'il dit, « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons. » Donc pourquoi ? Il le fait parce qu'il y a la vie éternelle qui l'attend, il le fait parce qu'il y a une récompense qui l'attend. Et Paul, il montre aussi que la négation de la résurrection peut entraîner quand même des conséquences dans la vie des gens. C'est ce qu'on voit ici. Si les morts ne ressuscitent pas, il y a une conséquence. Donc, mangeons et buvons. Profitons du temps présent. Tirons profit de tout ce qui nous est offert. Ne nous privons de rien. Mangeons et buvons. C'est encourager les gens à vivre comme ils veulent. Comme ils veulent, sans moralité aucune, sans frein aucune, sans se dire qu'un jour quelqu'un me rendra des comptes. Non, c'est ma vie ici, je la mène comme je l'entends. Voici les dangers qu'il y a quand on prétend qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, carpe diem, c'est ça. On ne veut pas se priver, on ne peut plus renoncer à quoi que ce soit. Verset 33, 34, il dit, « Ne vous y trompez pas, il ne peut pas les laisser comme ça, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu et je le dis à votre honte. C'est une exhortation qu'il fait, c'est en même temps un avertissement. Il dit, faites attention à tous ceux qui vous entourent, tout ce que vous entendez, tout ce qu'on véhicule autour de vous, tous les gens que vous côtoyez. Faites attention, car plusieurs ne connaissent pas Dieu. Malgré tout l'enseignement que j'ai donné, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Donc, vous pouvez vous laisser entraîner dans des voies qui n'honorent pas Dieu. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça reste vrai encore aujourd'hui. Amen. Amen. L'autre gros morceau, ça part du verset 35 jusqu'au verset 50, dans lequel Paul donne des réponses. Ça, c'est la particularité de Paul. Il se parle à lui-même, mais il se met à la place des Corinthiens en se disant, c'est certainement le genre de questions que ces gens sont en train de se poser. On l'avait vu quand on avait étudié l'épître de Paul aux Romains. On avait vu qu'il se mettait à la place dans leur peau. Il dit, c'est sûr qu'ils se posent ce genre de questions. Même chose ici. Alors, ils se posent des questions qu'ils supposent qui traversent l'esprit des gens concernant la résurrection des chrétiens. Ils disent au verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Verset 36, « Insensé, dit-il, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, et d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Donc, les deux questions que les gens se posent, c'est comment les morts ressusciteront-ils, si cela est vrai? La deuxième question que les gens se posent, c'est avec quel corps? Alors, Paul va essayer de répondre, va essayer de donner des éléments de réponse. Il y en a quatre que nous allons voir. Je vais regrouper en quatre éléments de réponse. D'abord, il les traite d'insensés, façon de se moquer d'eux. Vous savez, ils se disent, nous sommes les connaisseurs, nous avons la connaissance. C'est nous avons la connaissance. Il dit, vous êtes insensés. Il dit, mais ce que tu sèmes ne reprend vie, point vie, si ne meurt. Ce que tu sèmes ne peut pas prendre vie. Si le grain ne meurt, ben, il n'y a rien qui va sortir de là. Amen. Donc, il y a quatre éléments de réponse que nous allons voir. Le premier élément de réponse, on le voit dans les versets 36 à 38. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il tire donc son illustration, il le tire de la nature pour que les gens comprennent bien. Il dit, toute semence doit mourir avant de porter un fruit. Il faut qu'une semence meure avant de porter le fruit. Vous allez voir, c'est méthodique la façon dont il fait ça pour arriver au corps, évidemment, la résurrection. Il dit, le fruit qui est produit par la semence ne ressemble pas à la semence. Il dit aussi que c'est Dieu qui donne à chaque semence. Vous semez la semence, mais ce qui va en sortir, c'est Dieu qui donne le corps à la semence, la forme finale à la semence. Et chaque semence a son résultat propre. Tu ne peux pas semer la moutarde, aller récolter une mangue, tu peux pas, des choses comme ça. Il illustre ça par des éléments tirés de la nature. Premier élément de réponse, c'est Dieu qui donne à chaque semence le corps qui lui convient, qui lui est propre. La deuxième partie de la réponse, 39 à 44, dit ceci. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais y aller par étapes. Donc, il y a différents types de corps, voici ce qu'il veut dire. Il y a différents types de corps. Il y a les corps humains, comparativement ou en opposition aux corps des animaux, il les cite là. Il y a des corps célestes et des corps terrestres qui s'opposent. Et il y a même, dans les corps célestes, il y a même des différences d'éclat. Tout n'est pas pareil. Même une étoile ne brille pas comme une autre. Et c'est extraordinaire. C'est unique. Et c'est Dieu qui fait ces choses. S'il le fait au niveau des semences, s'il le fait au niveau des étoiles, des éléments de la nature, mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire au niveau des humains? Amen. Il le fait aussi comme troisième élément de réponse par un contraste entre les corps terrestres et les corps ressuscités. C'est là, si vous voulez, ressuscité. Ça, on le voit au verset 42. Et si en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Exactement. Le corps est semé corruptible parce qu'il est voué à la mort, parce qu'il est voué à la maladie, à la naissance. La semence, c'est une semence corruptible que nous recevons de nos parents. Mais elle est vouée à la maladie, elle est vouée à la mort. Mais il est ressuscité incorruptible. La mort n'a plus d'effet sur lui. Amen. Amen. Il est semé méprisable, c'est-à-dire un corps qui a honte du péché qui vit en lui, etc. Mais il est ressuscité glorieux. Il n'y a plus de honte à avoir parce qu'il n'y a plus de péché sur nous. Il est semé faible, mais il est ressuscité plein de force. Faible par rapport à quoi? Faible par rapport à toutes les tentations. Tant que nous sommes dans ce corps, nous le disons toujours, tant que nous sommes dans ce corps mortel, on est exposé à la tentation. Mais une fois qu'on sera dans ce corps ressuscité, plein de force, il n'y a aucune tentation qui nous atteindra. On n'est plus faible, pas du tout. Et il est semé naturel et il ressuscite corps spirituel. Naturel, nous sommes limités par le temps, par l'espace. On ne peut pas être partout à la fois, on ne peut pas, etc. Un corps spirituel, ben lui, il n'est pas limité. Il n'y a plus de limitation, ni de temps, ni d'espace. Amen. En un clin d'œil, on est ressuscité, on est corps spirituel. Whoop! Au-delà des étoiles, au-delà de tout, etc. On n'est plus limité. Donc, s'il y a un corps naturel, il y a donc, il le dit, aussi un corps spirituel. Il faut juste comprendre. Et c'est peut-être ça la clé, c'est qu'il y a quelque part une rupture qui se fait entre le corps naturel et le corps spirituel, mais dans cette rupture, il y a continuité. Dans cette rupture, il y a continuité, parce que le corps spirituel, bien aimé, gardera, et j'ai beaucoup aimé ça, gardera des aspects de notre corps céleste, des aspects, mais il aura des particularités. Il gardera des aspects du corps céleste, mais il aura des particularités d'un corps spirituel. Et c'est ça qui explique que nous disons que nous nous reverrons un jour. Êtes-vous sûr que moi je vais revoir Roland, je vais le reconnaître? Oui, je le reconnaîtrai. C'est ça la particularité. Donc il y a des choses du corps naturel que nous allons garder, mais il y a des spécificités spirituelles qui sont avec nous, qui fait qu'il devient incorruptible, etc. Ce n'est pas le même corps, il y a une rupture quelque part, mais il y a une continuité en même temps. Amen. Nous nous reconnaîtrons. Nous nous reconnaîtrons là-haut. Amen. Extraordinaire. Nous nous reconnaîtrons là-haut. Amen. Le dernier élément de réponse, c'est au verset 45. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Il termine en disant, en rappelant que le modèle de résurrection a été vécu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a eu les mains percées, il a eu le côté percé. Et quand il est monté avec ses mains percées. Amen. Amen. Le modèle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et ce qu'il cite là, c'est un texte de Genèse 2:7 qui dit que l'homme devint une âme vivante. Il fait donc allusion à Adam au moment de la création qui avait un corps naturel. Et donc, à travers notre corps naturel, nous portons l'image du premier Adam devenu par le même fait une âme vivante à travers Adam. Mais de même que nous porterons aussi l'image du dernier Adam. Nous porterons l'image du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Nous avons reçu notre corps naturel du premier Adam à la naissance, de même nous recevrons notre corps spirituel du dernier Adam à la résurrection. Spécial, une continuité. Nous l'avons reçu, il y a une rupture quelque part, mais il y a une continuité. Amen. Parce que nous allons nous reconnaître. J'ai beaucoup aimé ça. Nous allons nous reconnaître là-haut. Amen. Nous allons nous reconnaître là-haut. Alors, il termine en disant, ce que je dis, frère, après avoir présenté ces quatre éléments donc, de réponse à toutes les questions que les gens se posent, il dit, ce que je dis, frère, donc, en conséquence, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Paul termine donc sa série de réponses justement en montrant que l'homme naturel ne peut se tenir dans la présence céleste, dans la présence éternelle de Dieu. C'est ça, hériter le royaume. Il ne peut pas. Tel qu'il est, il faut qu'il soit transformé. Il faut qu'il soit transformé. Et le dernier verset, 51 à 53. Si je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il continue à se mettre dedans. Nous serons changés. Parce que lui, il croit qu'il sera encore là. Amen. Il sera encore là. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous avons besoin d'être transformés pour pouvoir être dans la gloire de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être transformés. Mais quand est-ce que ça va se faire? Mais ça va se faire au retour de Christ, à travers ce mystère de la résurrection. C'est là que cette transformation va s'opérer. Et nous en avons besoin. Ce n'est pas un mystère parce que les morts ressuscitent. Parce que même à l'époque où Jésus était sur terre, les morts ressuscitaient. Mais ceux qu'il a ressuscités sont après tout morts. Mais ici, c'est le vrai mystère parce que c'est une résurrection pour la vie éternelle. C'est un mystère parce qu'on ne mourra plus. Et d'ailleurs, on ne mourra pas tous. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera des gens encore en vie ici sur terre. Amen. Et on sera revêtus d'un corps. Nous n'allons pas aller choisir un corps. Nous serons revêtus. C'est Dieu qui va nous revêtir d'un corps immortel, incorruptible. C'est des choses que Dieu seul peut accomplir parce que c'est en lui qu'il y a la vie et la vie en abondance. Amen. Et au verset, on termine avec les deux derniers versets. Verset 54 à 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, c'est l'œuvre de Dieu, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi, nous l'avons vu à l'époque quand nous avons étudié Romains. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors s'accomplira cette parole qui a été dite par Ésaïe. C'est dans Ésaïe 25, verset 8, où il y aura une victoire complète sur la mort. Je vais le lire juste pour qu'on retrouve. Ésaïe 25, verset 8, dit ceci. Il engloutit la mort pour toujours. C'est à ce moment-là que cette parole va s'accomplir. Une autre parole aussi dans Osée, même chose, Osée 13, verset 14, il dit sensiblement la même chose. Il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Ce jour-là s'accompliront ces paroles justement qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Et la mort est comparée ici. Où est ta force? Où est ton aiguillon? Etc. Il s'est comparé à l'aiguillon du scorpion. Là. C'est comparé à justement à ça. La mort est comparée à un scorpion dont la piqûre, qui est le péché, justement, entraîne la mort. Amen. Et donc, le péché est vaincu. Le verset 57 dit que le péché, ce qu'on considère comme étant l'aiguillon de la mort, a détruit. Christ va le restaurer. Et il termine le verset 58 en disant, « Ainsi, mes frères, un peu comme il a commencé, hein, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement, il les appelle frères malgré les erreurs dans lesquelles ils étaient. Paul, il sait encourager les gens. Il sait reprendre, mais il sait encourager aussi. Il a débuté le chapitre quasiment de la même façon. Le chapitre 15, il a débuté en disant, « Je vous rappelle, frère, en sachant ce qui se passait là-bas, je vous rappelle, frère, que ce que vous avez reçu, attachez-vous à ça, retenez-le ferme, etc., dans la manière que je vous l'ai annoncé. » Et il termine de la même façon, « Soyez ferme, soyez inébranlable. » Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Car le service que nous faisons, que eux faisaient, que nous faisons pour le Seigneur, n'est pas vain. Il y a un résultat, il y a une récompense qui nous attend, et nous l'avons vu en débutant la réunion. Il vient bientôt avec un salaire, il vient bientôt avec une récompense. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous nous attachons au Seigneur, ce n'est pas en vain que nous nous privons de certaines choses, ce n'est pas en vain que nous nous disons « je veux mener une vie de sanctification, je vais rester sur ce chemin étroit, je me sens presque coincé, mais ce n'est pas en vain. » Il y a une récompense, il y a une rétribution qui vient. Amen. Parce que nous serons avec lui pour toujours. Amen. Amen.